Bien, bien. C'est un très grand plaisir pour nous d'accueillir ce soir le professeur Catherine Colliot-Hélen, qui est donc enseignante à l'Université de Rennes 1 et membre de l'Institut universitaire de France. Donc, ses travaux ont essentiellement porté sur la philosophie et la sociologie de Max Weber et plus largement sur, disons, l'idéalisme allemand hein, au sens large. Alors, parmi ses dernières parutions, hein, je mentionnerai le désenchantement de l'État, de Hegel à Max Weber, 1992. Études weberiennes, rationalité, histoire, droit, en 2001. La sociologie de Max Weber, donc dans la collection Repères, en 2006, à la découverte. Et enfin, donc, le dernier livre qu'elle va nous présenter ce soir, avec un titre magnifique, La démocratie sans démos, aux presses universitaires de France, hein, dans la collection Pratique théorique. Et je lui laisse tout de suite la parole donc, pour une présentation de cet ouvrage. Merci d'être avec nous ce soir.
Je remercie les différents responsables de l'organisation de cette manifestation pour cette invitation. Et je remercie aussi les gens qui sont ici présents. Et je vais essayer de tenir à peu près dans 40-50 minutes. Si je tiens moins, bah, tant mieux, ça fera plus de temps pour la discussion. Et expliquer ce que signifie ce titre finalement. Ça sera l'essentiel de mon propos, puis esquisser, dans la mesure du temps qui me restera, le contenu plus en détail. Parmi mes récentes publications, si on commence à 92, ça fait quand même un peu ancien. Mais effectivement, merci d'avoir cité le premier livre, parce que je peux donner l'impression de n'avoir travaillé que sur Max Weber. J'ai en fait effectivement beaucoup publié sur Max Weber, j'ai traduit Max Weber, si bien que récemment, dans je ne sais quelle émission, j'ai entendu parler de moi et d'être présenté comme professeur de sociologie politique. Je suis philosophe de formation, j'enseigne la philosophie, et même si j'ai beaucoup consacré de temps à Max Weber, effectivement, j'avais commencé par Hegel et Marx, au demeurant. Et là, je pense que même l'approche que j'ai sur Weber est aussi celle, les questions que je pose, est aussi celle d'une philosophe. Alors, la démocratie sans démos, de fait, en écrivant cet ouvrage, je suis revenu à ce qui a toujours été, qui avait été mon point de départ, c'est-à-dire la philosophie politique. C'est ce qui m'avait amené à faire ma thèse où j'avais confronté, c'était le titre Hegel et Max Weber. Et ensuite, j'ai été un peu happé par les sociologues et les historiens qui, à l'époque, spécialistes de Weber, qui, à l'époque, manquaient, disons, de Weberiens germanistes. Et il se trouvait que j'étais germaniste. Donc, c'est là que je ne dis pas que j'ai perdu mon temps, hein, j'ai gagné, mais je n'ai du même coup mes intérêts qui portaient sur la philosophie. J'étais un peu déporté par rapport à mes intérêts principaux qui portaient sur la philosophie politique. Et c'est là, de fait, que j'y reviens. Alors, maintenant, le titre. Le titre, je pense que je l'ai réalisé il y a peu de temps, peut porter à contresens. Et donc, d'entrée de jeu, je le dis, ce que ça ne signifie pas la démocratie sans démos. Parce que finalement, aujourd'hui, on entend souvent parler de démocratie sans peuple, ou éventuellement démocratie sans démos, sur le ton de la déploration. C'est-à-dire qu'on regrette, il manque un peuple à la démocratie, par exemple à la démocratie européenne. Il ne s'agit pas du tout de cela, c'est je ne déplore pas l'absence du peuple, je ne dis pas que le peuple fait défaut ou qu'on ne s'occupe pas assez de lui dans les démocraties modernes, mais c'est au contraire une invitation à comprendre le caractère démocratique des sociétés démocratiques modernes, celles que nous appelons démocratie libérale, c'est une invitation à comprendre le caractère démocratique de ces sociétés en se passant de la notion de peuple. Je vais m'expliquer, parce que ça peut paraître provocateur ou paradoxal, et je vais expliquer comment je suis arrivé à cette proposition. Je peux la formuler d'une autre manière, qui sera peut-être aussi provocatrice. Il s'agit de déconstruire, ce que je propose est de déconstruire la double équation qui s'est établie au cours des deux derniers siècles entre souveraineté du peuple égale démocratie égale autolégislation. C'est-à-dire, il y a encore une autre manière de le formuler encore, il s'agit d'inviter à ne plus comprendre la nature démocratique des régimes démocratiques modernes à partir du fameux axiome de Jean-Jacques Rousseau, le peuple soumis aux lois doit en être l'auteur. Je reviendrai sur cette formule. Alors, deuxième mise en garde, première mise en garde, je ne suis pas en train de déplorer l'absence du peuple. Deuxième mise en garde, deuxième mise au point, je ne conteste pas le caractère démocratique des démocraties libérales modernes. Je ne joue pas la démocratie contre le libéralisme ou le libéralisme contre la démocratie. J'invite simplement à comprendre ce caractère démocratique de nos démocraties dans des termes différents de ce qui est habituel. Et pour ce faire, j'effectue, avec mes moyens, ce qui ne sont pas ceux d'une historienne, mais j'ai fait appel à un certain nombre d'historiens, j'effectue un détour par l'histoire. L'histoire des deux derniers siècles qui nous a amené à qualifier de démocratiques des régimes, et le point pour moi importe, qui ne sont pas nés sous ce nom. C'est-à-dire que si on regarde, si on considère que l'origine de nos régimes politiques sont les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, quand je dis les révolutions, je pense aussi bien à la révolution américaine qu'à la révolution française, les acteurs et les théoriciens de ces révolutions ne présentaient pas les régimes qu'ils souhaitaient instaurer comme des démocraties. Donc ma question était, par rapport au consensus qu'il y a aujourd'hui sur le fait que la démocratie, c'est bien, c'est assez rare qu'on soit contre. Après, on s'est divergé sur ce qu'on met sous ce nom. À partir donc de ce consensus, c'était d'abord un étonnement, finalement, de constater que, non, dans la littérature de la fin du XVIIIe siècle, on jouait la République contre la démocratie ou on ne parlait pas de démocratie. Ces régimes ne sont pas nés sous le nom de démocratie. Donc la question était, à quel moment et d'où vient que, qu'est-ce qu'on a signifié quand on leur a donné ce nom-là. Alors, un mot sur la genèse de l'ouvrage, c'est-à-dire comment j'en suis arrivée à la thèse, résumée par le titre. Au point de départ, Weber m'a détourné de la philosophie politique et puis m'y a ramené, au point de départ, c'était une exégèse d'un chapitre de Max Weber, juriste, là une formation complexe, mais entre autres juriste, et qui a composé, à l'intérieur de ce gros ouvrage qu'on connaît sous le titre d'Économie et Société, un ouvrage qui s'appelle La sociologie du droit. Un des chapitres de cet ouvrage a attiré mon attention à plusieurs reprises, c'est-à-dire j'y suis revenu à plusieurs reprises, avec un souci, quand j'y réfléchis, qui était un peu un souci de philosophe, c'est-à-dire je ne comprends pas, donc je vais essayer de comprendre. C'est en gros, c'est le même rapport que je peux avoir avec la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Tant que je n'aurai pas compris toute la première et dernière ligne, je ne serai pas tout à fait contente. Je ne sais pas si j'y arriverai avant ma mort. Enfin bon, donc c'était un souci exégétique. Je ne comprends pas. Bon. Je comprends pas parce que c'est confus, certes, mais la lecture de ce texte, enfin, ce texte ou certains des aspects de ce texte me sont devenus clairs en relation avec un autre travail que j'ai effectué. On m'a demandé de traduire, de retraduire les conférences de célèbres de Weber, Le savant et le politique. La conférence sur le politique commence par un texte très connu, peut-être trop connu, dans lequel Weber définit l'État par le monopole de la violence physique légitime. Traduisant ce texte, j'ai été amené, au hasard des demandes universitaires, à faire une intervention dans laquelle j'ai utilisé ce que j'avais compris du texte. Qu'en vérité, la lecture par les philosophes de ce texte s'est focalisée sur la violence. Bon, donc on y voyait, c'est à la fois une définition de l'État fréquemment utilisée, mais une définition également fréquemment critiquée. Je pense notamment à Hannah Arendt, qui s'en prend, entre autres choses, elle mentionne Jouvenel et Max Weber, à l'association de l'État et de la politique à la domination et à la violence. En fait, il apparaît que cette définition, l'État, caractérisation de l'État par le monopole de la violence légitime, il apparaît d'abord que dans les textes de Weber, on trouve un équivalent antérieur qui est le monopole de la contrainte légitime. Et à partir du moment où on a retrouvé la contrainte, on s'aperçoit que c'était une thèse extrêmement courante chez les juristes et plus particulièrement les historiens du droit de son époque, et qu'elle signifiait simplement ceci. La thèse, ou la thèse des historiens du droit de l'époque, c'est que l'État moderne résultait d'un processus de captation du droit à garantir des droits, qui implique évidemment la contrainte, du droit à garantir du droit, captation qui allait de pair avec la dépossession des communautés de droit antérieur, c'est-à-dire, ça pouvait être des principautés, ça pouvait être des, ce qu'il appelle des Stände, des ordres, au sens des trois ordres, sauf qu'il y en avait plus, des Stände, ça pouvait être des églises, ça pouvait être des villes libres, etc. C'est-à-dire qu'il y avait des communautés, comme il dit, il appelle ça des communautés de droit, il appelle ça, et les historiens du droit auxquels il emprunte le font aussi, il y avait une multiplicité de communautés de droit. Un individu, d'ailleurs, pouvait appartenir à plusieurs. Et les droits qu'un individu revendiquait, il les faisait toujours au titre d'une appartenance à l'une ou l'autre de ces communautés, et c'était des droits différentiels. C'était mes droits, autant au sens où j'appartiens à cette collectivité, c'était des privilèges aussi, parce qu'au sens où c'était des droits que ceux qui n'appartenaient pas à cette collectivité n'avaient pas. Donc, pour résumer, la thèse du Weber réutilise dans son vocabulaire ou son sociologique, il importe une thèse qui est en fait une thèse d'histoire politique et d'histoire, dans la mesure où l'histoire politique est indissociable de l'histoire du droit, donc qui est, pour le résumer, le passage d'un pluralisme juridico-politique à au monolithisme, au monisme de l'État moderne. Bon. Alors, autre thèse liée à la précédente, Weber, dans cet article sur les droits subjectifs, bon, vous voyez en quoi la thèse sur le monopole de la violence légitime est liée à la thèse, à l'interprétation des droits subjectifs, parce que cela signifie que les droits subjectifs, désormais, les droits que les sujets revendiquaient, ne pouvaient être en dernière instance que ceux garantis par l'État. On a des droits au titre de sujet de l'État et non pas au titre d'une appartenance communautaire distinctive. L'autre thèse, quelque chose d'autre qui m'apparaissait, qui ressortait et du chapitre sur les droits subjectifs et d'autres thèses de Weber, c'est que Weber s'était autorisé, ce qui lui permettait d'ailleurs son analyse de l'État, il s'est autorisé quelque chose qui était d'utiliser la notion de droit subjectif de manière très très large. En fait, la notion, telle qu'elle, sémantiquement, n'apparaît qu'au XIXe siècle. Et en gros, chez des juristes allemands de la seconde partie du XIXe siècle. Tandis que Weber, je vais revenir d'ailleurs sur cette notion parce qu'elle ne va pas de soi, elle n'a pas été acceptée facilement et elle continue à être, elle a été très, très vite l'objet de critique, elle continue à être l'objet de critique. Bon, Weber, lui, s'autorise, il le sait fort bien, il connaît bien ses juristes, mais il s'autorise une définition très large qui lui permet de faire du comparatisme. C'est-à-dire qu'il définit, en gros, je résume, je ne vous sors pas ces phrases qui sont extrêmement alambiquées, j'espère que les miennes le sont un peu moins, il dit, bon, on dira qu'une personne détient un droit subjectif ou dispose d'un droit subjectif quand ses prétentions à un droit sont garanties par un appareil de coercition, donc de contrainte, quel qu'il soit, c'est-à-dire étatique ou non. Et ça n'allait pas de soi. Parce qu'à l'époque de Weber, précisément, autant l'analyse de l'État, de l'histoire de l'État en liaison avec l'histoire des droits subjectifs était une sorte de lieu commun, du moins était assez répandu chez les juristes et les historiens de son temps, autant l'idée qu'on pouvait parler de droit là où il n'y avait pas d'État, de dissocier la notion de droit subjectif strictement compris de la notion d'État, dire qu'il y a du droit non étatique, ça en revanche c'était quelque chose qui était discuté. Donc Weber lui se donne, c'est évident, il veut faire du comparatisme et du comparatisme transhistorique, transcivilisation, il a besoin d'une notion large, donc il se donne la liberté de parler de droit subjectif de manière très extensive. Donc en ce sens-là, on dira que quelqu'un dispose d'un droit subjectif quand ses prétentions de droit sont garanties par un appareil de coercition vers lequel donc il peut se tourner, quel qu'il soit, c'est-à-dire étatique ou non, et quels que soient aussi les moyens de cette coercition, l'excommunication de l'Église, par exemple, en est un. Bon, alors réfléchissant sur les implications de cette thèse, vous voyez, j'en étais toujours au niveau finalement d'un travail d'exégèse et je n'avais pas encore rencontré la démocratie en quelque sorte. Et réfléchissant aux implications de cette thèse, je me suis d'abord trouvé confronté, je ne connaissais pas ou peu cette littérature, à la critique de la notion de droit subjectif, souvent confondue avec la critique de la notion de droit naturel, voire plus généralement, ou en annexe plutôt, avec la notion de droit de l'homme. Alors cette critique, on la rencontre, de la notion de droit subjectif à proprement parler, de la notion juridique de droit subjectif, on la rencontre chez des juristes, d'ailleurs assez différents les uns des autres. Bon, pour ceux qui connaissent Léon Duguy, Hans Kelsen, c'est pas vraiment le même type d'école juridique, et chez l'un et l'autre, on trouve des formes diverses, une critique de la notion de droit subjectif et de liée à la notion de droit naturel, c'est-à-dire de droit dont les hommes ou les individus disposeraient par nature. Cette critique a été renouvelée sous une forme extrêmement virulente par un grand juriste, un grand historien du droit français, Michel Villet, à la fin du siècle précédent, lié entre autres choses à... qu'il a développé, il a étayé cette critique de la notion de droit subjectif d'une manière très, très érudite, et très admirable, et il l'a développé sous la forme d'une critique extrêmement polémique des droits de l'homme. Bon, disant, il n'y a pas de sujet de droit, il n'y a que des attributaires, c'est la thèse. Et cette critique de Villet a été reprise, et quand je travaillais là-dessus, je suis tombé sur l'ouvrage, par Vincent Descombes, philosophe, dans un ouvrage paru en 2004 qui porte pour titre « Le complément de sujet » et qui s'attaque, alors sur des bases, une sorte d'analyse grammaticale d'inspiration wittgensteinienne, bon, je laisse ça de côté, mais il s'attaque aux différentes figures de la philosophie du sujet et il consacre un chapitre à la querelle des droits subjectifs et il reprend en gros à son compte, en argumentant évidemment d'autres manières, en lui donnant un autre argumentaire derrière, il cite la critique de Michel Villet. Alors toutes ces critiques, un des leurs attendus était différent, mais toutes ces critiques, au-delà de leurs différences, me paraissaient méconnaître ce que Weber, d'une certaine manière, avait vu, à savoir la signification historique de la naturalisation des droits. Je veux dire par là, ce que signifiait, naturalisation des droits, j'entends par là, ce que signifiait le fait d'affirmer que l'homme, entendons l'être humain, a des droits par nature, et non pas au titre d'une appartenance à un collectif déterminé. Cela signifie, me semble-t-il, pas autre chose que la déconnexion du droit, des droits précisément, des appartenances particulières, des appartenances statutaires, donc l'abolition des droits particuliers. En affirmant... l'homme a des droits, c'est assez clair d'ailleurs dans les attendus des déclarations des droits de l'homme, hein, c'est le corollaire de la suppression des droits statutaires de toutes sortes. Donc la naturalisation des droits ne tenait pas à quelques naïvetés concernant la nature de l'homme, mais elle était le corollaire de cette abolition des droits statutaires, ou particuliers. Bon. En d'autres termes, elle signifiait, la naturalisation des droits, signifiait la généralisation, l'uniformisation de la personnalité juridique ou encore l'individualisation des droits. Et cette naturalisation, donc individualisation des droits, apparaissait donc ou apparaît comme directement liée à la forme étatique de l'organisation politique. Bon, en bref, c'est l'État moderne qui, en monopolisant la garantie du droit dans les limites évidemment de son territoire, a individualisé le sujet de droit. Le sujet de droit n'était plus sujet au titre d'une appartenance particulière, il n'avait plus des droits au titre d'une appartenance particulière, il avait des droits en tant qu'homme, étant entendu qu'il revenait à l'État de lui garantir ses droits. Alors, cette... individualisation du sujet de droit, du coup, apparaissait comme le produit d'une longue histoire, je vais vite là-dessus, mais il apparaissait du coup que les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, aussi révolutionnaires qu'elles aient été, entérinaient, plutôt que d'instaurer une rupture, étaient plutôt un accomplissement, c'est-à-dire qu'elles entérinaient un processus qui était en marche depuis plusieurs siècles, qui était précisément celui de la constitution de l'État moderne. Et à quoi était lié quelque chose qu'on a souvent reproché à ces droits proclamés par les déclarations, à savoir leur indétermination. C'est un thème qu'on rencontre très tôt, on le rencontre chez Burke et d'autres, à savoir que qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme, où ça commence, où ça finit, bon, il y a une liste, vous voulez, mais la liste paraît arbitraire, etc. ils sont indéterminés. Et effectivement, ils sont indéterminés. Ils sont indéterminés par opposition aux droits statutaires de jadis. Quand, même si ces droits statutaires étaient parfois relevés d'une histoire reconstruite, quand les habitants d'une cité, les membres d'un ordre, les sujets du sujet anglais, par exemple, revendiquaient des droits contre le pouvoir, ils revendiquaient des droits au titre de statut dont ils supposaient qu'ils avaient été fixés par l'histoire. C'est-à-dire, ils revendiquaient au nom du passé et, même si c'était reconstruit, c'était des droits qui étaient supposés être fixés. On allait fouiller dans les archives où la mémoire ou la coutume retenait ce que c'était que ces droits que l'on défendait contre des empiétements, par exemple, du pouvoir monarchique. Tandis que les droits de l'homme, ils étaient effectivement indéterminés. Vous voyez, ils étaient affirmés que le sujet en tant que tel est porteur de droits, quelle que soit la liste qu'on en donne, c'est une liste qui, parce qu'elle ne se réclame pas d'un état fixé dans le passé, est effectivement ouverte. Et en ce sens, vous voyez, cette figure du sujet de droit a été, c'est ma thèse, le vecteur qui a porté à une extension des droits sous une il a ouvert une histoire qui était celle de conquête de droits nouveaux sous une double modalité. D'une part, l'élargissement de droits déjà acquis pour certains à d'autres catégories de la population. Bon, pour aller très vite, pour les droits politiques, c'est évident. On passait des droits censitaires à des droits politiques concernant éventuellement universels, au suffrage universel, puis on s'aperçoit qu'on oublie les femmes, on les rajoute, etc. Bon, on élargit des droits, le bénéfice de droits déjà existants à des catégories de population différentes. Et puis, autre élargissement, autre extension sur la constitution de nouveaux droits, le plus simple étant, le plus évident étant les droits sociaux. Alors, ceci pour la genèse. Et je passe à une seconde étape de la genèse de ce livre. D'une certaine manière, quand j'aurai fini sur la genèse, j'évoquerai, je vous dis rapidement les chapitres, mais le thème, je crois, sera suffisamment clair. Ceci pour la genèse, donc, deuxième étape, donc, dans un article que j'ai publié en 2009, où je tirais le fil, en quelque sorte, de cette réflexion, qui portait le titre « Pour une politique des droits subjectifs, la lutte pour les droits comme lutte politique ». Bon, j'ai invité à comprendre la lutte pour les droits comme étant une lutte politique, qui est paru dans un numéro spécial de l'année sociologique sur la sociologie du droit. Dans cet article, en fait, je suggérais que mon interprétation de la nature de l'État moderne, au fil conducteur de l'histoire des droits subjectifs, avait deux conséquences ou m'invitait à deux questionnements. D'une part, elle invitait à repenser ce que nous entendons par démocratie quand nous désignons ce terme pour qualifier les régimes politiques modernes. Je l'ai dit tout à l'heure, il est notable que les acteurs et théoriciens des révolutions ne pensaient pas les régimes à l'institution desquelles ils contribuaient comme étant des démocraties. C'est-à-dire que l'association que nous établissons aujourd'hui entre souveraineté du peuple et démocratie n'allait nullement de soi. Ce qu'il s'agissait de comprendre, donc, c'était la raison pour laquelle ces notions ont fini par être confondues, souveraineté du peuple égale démocratie, c'est-à-dire de comprendre le processus que j'ai baptisé, reprenant par hasard un terme qui, en fait, avec des sens, une expression qu'on rencontre souvent peut-être avec des sens divers aujourd'hui, la démocratisation des démocraties. La deuxième conclusion de cet article, où j'invitais, je me dis, il faut repenser finalement l'ouvrage, ça a été ça, c'était la poursuite de cette question. Ma deuxième question, le même article, suggérait que si on admet, je reprends les thèses que j'ai déjà énoncées, si on admet que l'individualisation du sujet de droit est le produit de l'État moderne, et deuxièmement, que cette individualisation est ce qui a permis la démocratisation des démocraties dans la mesure où elle a ouvert la voie à des revendications de droits qui ne se faisaient plus au titre de particularité, mais toujours au nom de l'égalité. Puisque les droits, c'est toujours au nom de l'égalité. Si on admet ces deux thèses, propositions, on peut s'interroger et peut-être être inquiet sur ce qui peut être l'avenir de la démocratie à une époque caractérisée par l'érosion du pouvoir des États. Je dis bien érosion, tout le monde en est d'accord, les États ne disparaissent pas, mais je crois aussi que tout le monde en est plus ou moins d'accord, les États ne sont plus non plus ce que, ils l'ont peut-être jamais eu parfaitement, mais ils ont été plus proches de l'idéal type, ils n'ont plus le monopole de la contrainte, légitime ou non. Donc les États s'inscrivent dans quelque chose qui se dessine, qui ne sera peut-être jamais véritablement ordonné, qui est une nouvelle topologie des pouvoirs au niveau mondial. Ils ne sont plus les seuls acteurs déterminant le contenu des droits, ni leur garantie. Alors, je n'ai pas de réponse définitive à cette dernière question. En fait, ce sont donc réfléchir sur la nature de nos démocraties d'un côté, ou les raisons pour lesquelles nous qualifions ces régimes de démocratie d'un côté, et d'autre part ouvrir sur ce qui peut advenir des démocraties au moment où l'État, à une époque où l'État n'a plus le rôle cardinal qui a été le sien pendant, disons, un siècle et demi d'histoire, peut-être un peu plus. C'était le propos de l'ouvrage. Maintenant, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais évoquer simplement les 5 chapitres qui constituent cet ouvrage, en évoquant les thèmes que j'y aborde, en résumant. Le chapitre 1 s'appelle « Les droits subjectifs » et est consacré aux droits subjectifs. Il rappelle ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que la pertinence de la notion a été discutée, et je développe le thème que j'ai déjà évoqué de l'individualisation du droit. J'introduis dès ce premier chapitre une référence à Kant, et en particulier à cette doctrine du droit. Alors, de manière, pour ma part, un peu inattendue, à mes yeux, un peu inattendue, il est beaucoup question de Kant dans ce texte. D'une certaine manière, c'est vrai, parce que Kant est, par excellence, le théoricien des droits subjectifs. Mais en même temps, Kant passe plutôt pour un théoricien de l'état de droit que pour un théoricien de la démocratie. Et on se joue souvent l'état de droit contre la démocratie, donc il peut paraître curieux de se réclamer, je ne le fais pas simplement dans ce premier chapitre, de revenir continuellement à Kant tout au long de l'ouvrage. Enfin, j'ai été amené à m'en expliquer dans le quatrième chapitre. Deuxième chapitre, le premier chapitre comporte également quelques éléments sur Hegel et Marx. Le deuxième chapitre porte pour titre « La démocratie » et je rappelle au tout début ce que signifiait le terme « démocratie » au XVIIIe siècle, et en fait on comprend pourquoi les acteurs de la Révolution ne se sont pas pensés démocrates. Démocratie à l'époque, c'était encore une notion qui était liée à la typologie classique des trois formes de gouvernement selon le nombre de ceux qui l'exercent, quelques-uns, une élite et pas tous, c'est jamais tous, mais enfin le peuple, un certain nombre. Forme de gouvernement, donc, je dis, en fait, c'était un peu une vieille lune. Pour pas mal de théoriciens, d'auteurs de l'époque, les exemples étaient toujours les mêmes. Il y avait quelques exemples nouveaux, on renvoyait aussi à quelques exemples suisses, mais ça traînait un peu dans tous les livres, et c'était quelque chose d'un peu fossilisé, quoi, un savoir d'école qui ne correspondait pas à la réalité de ce que vivaient, même s'ils ont aussi été puisés dans des savoirs d'école au demeurant, mais de ce que vivaient les acteurs de la Révolution. Les acteurs de la Révolution affirmaient certes la souveraineté du peuple, mais ils ne voulaient pas, ils n'ont jamais voulu instaurer un gouvernement du peuple s'entendant comme génitif subjectif. Ils étaient très clairs là-dessus, c'était même le cas de Robespierre. Et donc ils ne pouvaient pas se réclamer de ce sens usuel de la démocratie, parce que cela signifiait effectivement gouverner le peuple, gouverner dans la typologie traditionnelle, le peuple, quelle que soit la manière dont on dessinait ses contours, gouverner. Alors, le gros morceau, donc, raison pour laquelle il ne s'appelait pas démocrate, donc, gros morceau de ce chapitre est constitué par une section consacrée au contrat social, à ses apories. Je ne suis pas la première, loin de là, à me risquer à la lecture et aux commentaires de ce texte. C'était une relecture, une nouvelle lecture, où à la lumière des questions que je me posais. Et en gros, le chapitre sur Rousseau insiste, enfin, essentiellement sur le fait que Rousseau, tout au long du contrat social, rêve de faire coïncider le peuple politique, c'est-à-dire qu'on appellerait le peuple souverain ou le pouvoir constituant, dans un terme du vocabulaire qui n'est pas le sien, et le peuple réel. Ou encore, de faire coïncider le citoyen et le sujet. Le sujet au sens de l'assujetti. Et qu'en fait, bon, il a beau répéter, on peut prendre toutes ces citations, le citoyen est citoyen d'un côté, sujet de l'autre. Sujet, c'est toujours au sens d'assujetti, donc celui qui, d'une certaine manière, est dominé. Hein. Il a beau répéter tout cela tout le temps, il ne s'en sort pas, il n'arrive pas à faire coïncider les deux. Et donc, la thèse de ce chapitre ou de ce sous-chapitre, c'est que la référence fondamentale des théoriciens démocrates, plus ou moins radicaux d'aujourd'hui, j'avais en tête notamment quelques auteurs allemands sur lesquels je travaillais, auteurs allemands qui ont tendance à affirmer, à considérer que, allemands et français d'ailleurs, il y en a aussi, ont tendance à considérer que la formule « le peuple soumis aux lois doit en être l'auteur » signifie que le peuple doit participer à l'élaboration de la loi à laquelle il est soumis et que par conséquent, la démocratie ou le régime idéal, puisqu'après tout Rousseau ne l'a pas appelé de ce nom-là, mais on peut considérer que nous on peut le faire, la démocratie, tendanciellement, soit abolit la domination, soit plutôt tendanciellement, va vers une élimination de la domination, une identité des dominants et des dominés. Je pense que le fait que Rousseau hérite d'une structure qu'il n'arrive pas à démocratiser en ce sens, témoigne de ce qu'effectivement le sujet au sens de l'assujetti n'a jamais cessé de subsister derrière le citoyen. Le citoyen est toujours un sujet. Alors, dans ce même chapitre, je reviens à Kant. À Kant qui, à mon avis, a très bien compris Rousseau, en fait, ce point de vue-là. Bon, il a interprété le contrat social comme une idée de la raison, c'est-à-dire une idée qui fait obligation, donc fictive, bon, c'était fictif aussi pour d'autres raisons chez Rousseau, mais enfin, là, c'était clairement affiché comme fictif, une idée qui fait obligation au législateur de d'édicter ses lois comme si, il le dit explicitement, elles émanaient de la volonté collective de tout un peuple. Au passage, si le peuple consulté ne produisait pas ou ne s'accordait pas avec la décision du législateur rationnel, c'est le peuple qui aurait tort. En d'autres termes, ce que fait Kant, pour aller vite, dans l'aporie, il résout l'aporie de Rousseau, c'est-à-dire l'impossible coïncidence entre peuple politique et peuple réel, Kant supprime le peuple réel. Enfin, du moins dans la compréhension de ce que sont les institutions qu'il appelait républicaines. D'où, par exemple, la condamnation du droit de résistance. Ceci pour mon chapitre 2. Mon chapitre 3, la démocratisation des démocraties. Une fois que j'ai, d'un premier temps, donc réfléchir sur la notion de droit subjectif, expliquer comment j'utilise la notion, prévenir toutes les critiques, enfin, m'expliquer avec les critiques qui ont été faites. Dans un second temps, réfléchir sur ce qu'a été la démocratie, donc essayer de comprendre pourquoi les révolutionnaires ne se comprenaient pas comme démocrates. Dans le troisième chapitre, où j'ai repris donc cette expression empruntée, la démocratisation des démocraties, je tente de décrire brièvement le procès historique qui a précisément conduit à nommer démocratie les régimes post-révolutionnaires. Et chapitre souligne, évidemment, ce procès, ça a été celui de l'élargissement des droits et de la conquête de nouveaux droits à travers la forme des droits subjectifs, c'est-à-dire à travers des droits qui étaient revendiqués au nom de l'égalité, toujours. Ceci dit, ce procès a eu lieu, cette démocratisation des démocraties a eu lieu dans un cadre qui était un héritage d'avant les révolutions, à savoir les cadres de l'État territorial. C'est-à-dire que, à qui s'adressait le sujet citoyen revendiquant des droits, de qui réclamait-il la garantie de ses droits ? De l'État territorial. Et du même coup, le processus d'élargissement des droits a marché de concert avec la nationalisation de la citoyenneté. C'est-à-dire que c'est un processus de fait de restatutorisation. Je pourrais revenir là-dessus parce que je pense qu'on peut montrer à propos des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, indépendamment du fait qu'elles ne distinguaient pas l'homme du citoyen. Là-dessus, je ne suis pas la lecture de Marx, mais celle faite entre autres par Étienne Balibar. Les droits qui sont affirmés comme des droits de l'homme en général, à charge pour chaque individu d'aller les revendiquer auprès de l'autorité, le pouvoir dont il dépend. Mais à partir du moment où la revendication où est effectuée une extension des droits, la structure, le cadre dans lequel ces droits étaient revendiqués, en quelque sorte contaminaient les droits qui ont été compris comme des droits attachés à la nationalité. Bon, alors après, il faudrait rentrer dans le détail, j'ai essayé de le faire, de ce qu'on a distingué comme droit de l'homme, je peux y revenir, mais je voulais la thèse, c'est que le processus de démocratisation des démocraties, entendu donc comme élargissement, extension effectivement des droits subjectifs, a coïncidé avec une restatutorisation des droits subjectifs, restatutorisation signifiant que ces droits ont été associés à un statut, celui de national. Et vous avez, bon, les sociologues connaissent cela, même si le texte n'est malheureusement toujours pas traduit en français, vous avez un idéal type de la citoyenneté avec les différents niveaux des droits qui était formulé par Thomas Marshall dans les années 1949-1950-60 du XXe siècle, où il en fait quelque sorte de résumer le processus historique qui avait abouti à la constitution de ce que certains appellent l'État social, d'autres l'État-providence, sous forme effectivement d'un statut décliné en trois types de droits, type de droits associés à différentes couches d'histoire, les droits dits liberté, bon, ensuite les droits politiques, les droits civils, les droits politiques, les droits sociaux. Or, cet idéal type est très clair, c'est-à-dire que là, dans l'idéal type de Marshall, tous ces droits sont liés à la nationalité, d'où le problème de l'étranger. L'étranger ne peut plus avoir que des droits concédés. Alors, pour être clair sur le sens de la thèse, et je vais aller plus vite sur les deux derniers quand même, le point sur lequel je vais insister, c'est que le lien établi entre les droits du citoyen et l'appartenance nationale sont bien, selon l'analyse que j'en fais, le résultat de la démocratisation des démocraties. Mais ma thèse, c'est que ce lien ne résulte pas de la logique des droits subjectifs, mais du caractère territorial de la forme État. C'est-à-dire que l'individualisation des droits est en vérité antagonique avec toutes les formes statutaires ou communautaires, pour le dire d'autre manière, d'interprétation des droits, y compris avec cette forme statutaire ou communautaire particulière qui est celle de la citoyenneté nationale. La communauté des citoyens, si vous voulez. Donc, je pense que ce sont deux choses qu'il faut distinguer, sauf à tomber sur un problème que soulève, entre autres, une philosophe politiste américaine, Saïla Ben Habib, par ailleurs, qui a consacré beaucoup de temps à la réflexion sur le droit des étrangers, entre autres choses, mais qui aboutit à la conclusion, enfin dans tous les cas, dans le dernier ouvrage que j'ai lu d'elle, elle en a écrit depuis lors, qu'il n'y a pas moyen de dénouer le nœud gordien, qui fait que, toujours le casser, c'est ce que je suis en train de faire, hein, je le brise, c'est que, à partir du moment, si on interprète la démocratie comme souveraineté du peuple, le peuple devant lequel les tenants du pouvoir doivent rendre des comptes, doit être délimitable. Et par conséquent, nécessairement, il exclut. Alors, Saïla Ben Habib invite à ouvrir les frontières doivent être poreuses, mais l'idée c'est que, à partir du moment où démocratie égale souveraineté du peuple, le peuple doit effectivement avoir des frontières. Et je ne discute pas ça en termes de gouvernement, je ne suppose pas que les frontières vont disparaître, etc. Mais mon analyse est que les raisons pour lesquelles nous qualifions de démocratie nos régimes n'ont rien à voir avec la clôture territoriale. La clôture territoriale, c'est la forme État, qui, d'une part, a rendu possible la revendication des droits au nom de l'égalité, mais qui aussi a contraint cette revendication à se formuler dans un cadre clos qui a présidé à la restaturatorisation, recommunautarisation des droits. Alors, je vais quand même ajouter deux mots pour la fin. Quatrième chapitre développe le thème de la démocratie sans démos. J'essaie d'expliquer pourquoi, quel avantage on a finalement à penser la démocratie sans l'attacher à la notion d'un démos qui serait souverain. Ça implique aussi, je l'esquisse vers la fin, d'abandonner la notion de souveraineté du peuple, d'abandonner la notion de pouvoir constituant, etc. Ça fait beaucoup, vous me direz, c'est le carnage, mais je n'étais pas partie avec cette idée. C'est une sorte de... j'ai un fil que je tire et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé des raisons de rembobiner la chose. Et dans ce chapitre, je reviens à Kant. Un Kant dont ma lecture de Kant est à la fois très individualiste, c'est un reproche qui m'a été fait, d'une dimension très individualiste de mon propos, mais un Kant dans lequel je souligne non pas son légalisme, mais quelque chose qui me paraît fondamental, qui est dans son concept de liberté, c'est le thème sur lequel Foucault s'était arrêté, de l'arrachement aux tutelles. C'est un thème que l'on trouve dans le fameux texte sur qu'est-ce que les Lumières, et c'est un thème qu'on trouve aussi quand il commente la Genèse, l'idée que, au fond de la liberté, il y a une volonté de s'arracher aux tutelles, s'arracher à la tutelle de l'expert, du maître, du précepteur, etc., etc., et que c'est dans cette liberté, ce qu'il appelle le droit inné dans la doctrine du droit, qu'il cantonne en deçà du droit des hommes, c'est dans ce fond de volonté de s'arracher aux tutelles que réside en fait le principe de la liberté, ce qui signifie que, je tire la conclusion, mais je pense que ça peut l'appuyer sur le texte de Kant, ce qui signifie que le citoyen ne peut pas être confondu avec un protégé. Ce qui veut dire que les droits du citoyen sont des droits, certes, qui appellent une reconnaissance, un soutien, et donc qui appellent aussi le pouvoir, en titre de garantie des droits, mais il ne faut pas les confondre avec des droits concédés. Le droit concédé, on le reprend. Le pouvoir qui concède des droits, il reprend les droits. Les droits arrachés, ils ne survivent, ils ne se maintiennent que parce que ceux qui les ont arrachés sont capables de se mobiliser à nouveau pour les défendre et éventuellement pour les élargir. Bon, et enfin, le chapitre 5. Dans le chapitre 5, j'aborde donc ce que j'évoquais, c'est-à-dire la dimension « Que peut-il advenir du sujet de droit dans les conditions de la mondialisation ?» Et là, vous voyez, je pense que c'est... rien n'est joué. Rien n'est joué parce qu'il y a toute une lecture de la mondialisation, je cite pas mal d'auteurs allemands à ce propos, qui ont tendance à le lire comme quelque sorte qui, quelle que soit la mondialisation économique, bon d'accord, c'est pas beau, c'est pas bien, ça a des tas de défauts, mais il y a la mondialisation juridique et politique, c'est-à-dire l'idée que se constituent, et c'est vrai, des instances judiciaires notamment auxquelles on peut faire appel par-delà le pouvoir de l'État national. Et donc, la mondialisation, dont je l'entends, c'est sous tous les aspects, pouvoir économique, mais aussi pouvoir politique, pouvoir judiciaire. Et donc, il y a une lecture de cette mondialisation, à mon avis, très idyllique, sur laquelle, bon d'accord, il y a du retard, les droits de l'homme se développent moins vite la mondialisation des droits de l'homme va moins vite que celle des droits du commerce, ok, mais il y a l'idée qu'il y a un mouvement général qui dessine, au-delà des communautés particulières qui étaient l'État, une communauté globale le cosmopolitisme impliquerait un sans s'imaginer que ça arrive à une structuration aussi définie que celle d'un État national, mais à quelque chose comme une communauté politique mondiale. Bon, je pense d'abord qu'on ne peut pas étayer ça sur les textes de Kant. Je discute des interprétations qui sont faites et du texte de Kant et du texte d'Anna Arendt sur le droit à avoir des droits, etc. Et je pense surtout que ce n'est pas une compréhension, je dirais, prosaïque ou... de ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des pouvoirs divers. Du droit est produit. Alors, j'aborde là très rapidement, et sans, je ne l'ai pas approfondi, je souhaiterais le faire, la littérature que l'on trouve chez les juristes aujourd'hui sur la nouvelle pluralisation juridique et judiciaire. C'est-à-dire sur le fait qu'effectivement, il y a du droit qui est produit. Il n'y a pas seulement l'État qui produit du droit. Il n'y a pas simplement des instances supra-étatiques, mais constituées par accord entre les États qui produisent du droit. Non, il y a beaucoup du droit qui produisent des règles avec des garanties ou des pouvoirs derrière pour les garantir. Il y a aussi des pouvoirs économiques et que, de fait, les frontières entre le juridique, le politique, l'économique sont devenus de plus en plus flous. Voilà. Et par conséquent, sur ma question, que peut-il, si vraiment le sujet de droit, en tant qu'individu porteur de droit, a été le vecteur de la démocratisation au sens où il était le porteur d'une revendication d'égalité, cette revendication d'égalité, il la faisait valoir auprès, il avait besoin de l'institution. Je pense que la revendication, même si elle est contestation, appelle l'institution. Il avait besoin de l'institution qui était destinataire. Institution qui d'ailleurs était un pouvoir de domination. Il reste qu'on s'adresse, on revendique quand on revendique, on s'adresse à quelqu'un en lui demandant quelque chose. Et le problème, c'est que les destinataires maintenant sont multiples. Et par conséquent, s'ils sont multiples, ils peuvent tout aussi bien permettre la reconstitution, si vous voulez, en quelque sorte en contrepoint du nouveau pluralisme juridico-politique. Certains parlent d'une reféodalisation, ce qui est certainement très discutable. Mais nouveau pluralisme, il peut très bien y avoir en contrepoint une nouvelle communautarisation des droits, de nouveaux droits statuts.
Voilà. Merci beaucoup, merci. Merci pour cette superbe présentation. Alors, peut-être pour lancer un peu la discussion, moi j'aurais envie de revenir sur des choses qui m'ont frappée à la lecture du livre et que vous avez rappelées aussi dans votre présentation. J'avais envie de revenir sur une question que finalement aussi vous n'abordez pas, qui est la proposition d'interprétation que donne Habermas des rapports entre souveraineté populaire et droits de l'homme. Dans droit et démocratie, parce que c'est presque pour moi un dialogue implicite que vous pourriez mener avec lui, mais pour autant il n'est pas justement il est pas présent de manière explicite dans la mesure où Habermas précisément considère que les deux piliers du droit moderne dans un contexte post-métaphysique sont d'un côté la souveraineté populaire et de l'autre les droits de l'homme, et dans la mesure où il place d'un côté Rousseau au fondement de la généalogie, du côté évidemment souveraineté populaire, et Kant, du côté droit de l'homme, qu'il fait émerger d'un côté le libéralisme, de l'autre le républicanisme, et qu'il essaye de penser dans les deux cas les apories constitutives de chacune de ces traditions pour mieux évoquer ensuite la synthèse qu'il propose. Je me demandais comment vous vous positionnez justement par rapport à cette discussion, hein, puisque vous partez de la notion de droit subjectif, et qu'ensuite vous montrez à quel point la souveraineté populaire ne suffit pas en quelque sorte à les garantir. Voilà.
Si vous voulez, qu'il y ait eu une sorte de discussion implicite à Habermas, c'est vrai. Je l'ai lu longtemps, de manière partielle. Je ne m'y suis jamais confrontée directement, parce que c'est une machine énorme et qui se défend de tous les côtés en rajoutant des mais encore, etc. Que, bon, parfois, d'abord, on se demande s'il reste quelque chose de sa construction quand il a ajouté toutes ces nuances et modifications. Et du coup, je pense qu'on passerait sa vie en fait à discuter. Si on veut discuter sérieusement, en tenant compte des modifications qu'il introduit. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai jamais directement fait des articles, réflexions critiques, etc. Mais c'est vrai que la discussion est notamment avec la thèse selon laquelle finalement État de droit et démocratie se confondent, contre l'interprétation, si je vous entends bien, mais j'ai eu souvenir de quelques articles de Habermas où il le dit explicitement. Bon, d'un côté, il y a une tendance libérale qui est État de droit, de l'autre côté, il y a démocratie qui est supposée ne pas être libéraliste, mais finalement, quand on y réfléchit bien, on s'aperçoit qu'ils s'impliquent l'un l'autre et État de droit, c'est tout à fait conciliable. Mon point de divergence, c'est Mon point de divergence, c'est le fait qu'ils partent et ils continuent à le faire, d'une certaine manière honnête avec d'autres paradigmes, le fait encore, et c'est qu'ils partent de la souveraineté du peuple et qu'ils entendent la souveraineté du peuple. Alors, c'est pas qu'ils oublient de poser la question de savoir pourquoi la démocratie, la souveraineté du peuple, au début, on n'a pas parlé de démocratie pour en parler. Ça, c'est un point historique qui n'est pas nécessaire, hein, indispensable. Mais c'est qu'ils l'interprètent comme autolégislation. Et je suis toujours étonnée de voir combien... toutes ces théories démocratiques, effectivement, en vertu de l'axiome de Rousseau, le peuple soumis aux lois doit en être l'auteur, s'obstinent à penser que nos régimes ont quelque chose à voir avec l'autolégislation du peuple. Si on prend Rousseau lui-même, les citoyens ne votent pas beaucoup et quand ils votent, c'est un acte de magistrature. Ils ne votent pas en tant que membres du souverain. D'autre part, ce n'est pas eux qui légifèrent. Ils ont le droit législatif, c'est-à-dire que de leur silence présumé, du silence universel, comme dit Rousseau, on induit que la validité de la loi. Mais ce droit législatif, mais c'est le législateur qu'il va chercher quelque part, qui formule la loi. Il s'agit des lois constitutionnelles. Hein, les lois ordinaires, il les laisse ailleurs, il s'agit des lois constitutionnelles. Donc déjà, dans l'œuvre maîtresse, il n'est pas du tout évident que la souveraineté du peuple implique que le citoyen légifère. Bon, c'est une instance, la souveraineté du peuple, c'est une instance, le peuple souverain, c'est une instance abstraite qui fonctionne comme moyen de légitimation des pouvoirs au moment où on ne peut plus se rapporter à des instances transcendantes, mais ce n'est pas quelque chose au départ qui était pensé comme devant induire, bon, tout le monde est bien d'accord, ça ne voulait pas être le gouvernement du peuple, mais pas même que le peuple participe à la législation. Donc c'est ça, chez Rousseau, et je pense que, et je pense après, si vous voulez, sur le plan historique, que bien sûr, progressivement, le fait de réclamer le droit de vote, qui a été réclamé comme un symbole d'appartenance, plutôt que pour effectivement exercer un pouvoir sur la loi, sur l'élaboration de la loi, je pense que ce n'est jamais qu'un des moyens par lesquels s'est effectué, tout au long du 19e et du 20e siècle, des contrôles, pressions, influences sur... Il s'agit de contrôler les tenants du pouvoir. Et c'est un des moyens, c'est pas le seul. Et ce qui me gêne dans le fait qu'on en fasse quelque chose de central, c'est que cela peut prêter à la disqualification des autres modes de contrôle, d'influence, qui passent aussi par la contestation des tenants du pouvoir. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, je me souviens, il y a des années, ça avait beaucoup frappé, au moment des mouvements de 95, notre Premier ministre de l'époque avait déclaré que... Bon, c'est un argument qui revient toujours chez les politiques. Nous sommes légitimement élus, donc toute contestation est non démocratique. Je pense que dans les moyens, dans la logique, si on prend l'histoire, ces deux siècles, il n'est pas du tout, il ne s'agit pas du tout de condamner le vote, la participation aux élections, etc. Mais c'est un des moyens de contrôle du pouvoir, ce n'est pas un moyen pour le peuple de participer à l'élaboration de la législation. Voilà. Et à mon avis, c'est mon problème avec Habermas, ce n'est pas simplement Habermas, c'est ce noyau-là. Qui me gêne considérablement.
Alors, juste avant de passer la parole à la salle, j'aurais quand même envie de reprendre le dialogue sur Rousseau, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Lorsque vous dites que Rousseau, finalement, prive le peuple du droit de légiférer, hein, évidemment, il y a toute la distinction de savoir ce que c'est que légiférer, bien sûr. Hein. C'est vrai qu'il écarte le droit d'initiative législative, et à l'époque, effectivement, à Genève, il y a des gens qui le proposaient, hein, comme Michel Ducret, des gens plus radicaux, qui ont d'ailleurs été bannis. Hein. Il a quand même le droit de légiférer au sens où il a le droit de consentir ou de réfuter, enfin, de refuser les lois. Ça, c'est vrai que c'est un point sur lequel il revient notamment dans les lettres écrites de la montagne, où il redonne pouvoir au Conseil général. Bon, ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut discuter. La notion même de légiférer, ce que fait le législateur, à quel moment il le fait, ensuite, le fait que les institutions prennent leur autonomie, hein. Bon, c'est une question qu'on peut poser. La dernière question que je voudrais poser, c'est plutôt sur la question de savoir finalement le moment révolutionnaire et l'interprétation que vous faites de la Déclaration des droits de l'homme, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans le livre. Ce que vous laissez de côté, c'est, bon, vous parlez beaucoup de Rousseau, mais ce que vous laissez de côté, c'est les autres généalogies, c'est-à-dire Locke, pour le dire vite, hein, les droits naturels, on pourrait remonter à Grotius, bien sûr, mais disons Locke, hein, donc vie-liberté, vie-liberté bien quand même, comme socle des droits naturels, et de l'autre, Montesquieu. Hein. Montesquieu, qui est, disons, l'autre peut-être penseur un petit peu minoré, qui est quand même le premier grand penseur de la démocratie au XVIIIe siècle, même s'il la relègue dans le passé, mais à partir duquel Rousseau et Robespierre ont quand même construit leur conception de la démocratie. Et donc voilà, je me demandais si finalement, du coup, repenser le moment révolutionnaire et la déclaration des droits de l'homme sans faire droit à cette double généalogie, donc d'un côté Montesquieu et de l'autre Locke, ça donnait pas aussi une vision, disons, peut-être plus en surplomb à partir de Kant, justement?
Si c'était de l'histoire de la philosophie, oui. Mais ce n'était pas de l'histoire de la philosophie. Le chapitre sur Rousseau, il s'est imposé tout simplement parce que les auteurs sur lesquels je travaillais, qui parlaient de... Bon, bien sûr, je mobilise beaucoup l'histoire de la philosophie. Hein. J'utilise des auteurs en disant, oui, Kant a vraiment pensé quelque chose là, etc. Mais je suis tombée sur la nécessité de relire Rousseau, d'ailleurs uniquement le contrat social, parce que je dis aussi qu'il y a beaucoup d'hésitations dans son texte, hein, mais que, que l'opposition, la multitude se tait. Si vous voulez. Le problème, c'est que la multitude, elle ne peut que se taire, parce que si elle parle, elle est confuse. Mais je dis que la logique du contrat social, c'est celle-ci. Je ne dis pas que Rousseau est clair. Bon, personne n'aurait cette idée-là, hein, qui n'hésite pas, qui ne fait pas d'expérience, et puis bon, etc. Mais en ce qui concerne, je dis, c'est pas de l'histoire de la philosophie. Je dis, pourquoi ce chapitre sur Rousseau? C'est tout simplement parce que les auteurs qui interprètent l'actualité, je pense notamment aux auteurs allemands que j'utilise. Mais bon, vous pouvez aussi, je prends Negri peut-être, je ne sais plus, hein, mes auteurs allemands, c'est clair, qui interprètent l'actualité, qui même écrivent, parfois des politistes qui écrivent sur les processus contemporains de mondialisation, etc., quand ils mesurent le degré démocratique ou non démocratique des institutions, notamment non nationales, c'est toujours avec... cet instrument de mesure, ce critère qui est celui de l'autolégislation. Et il se réclame au Rousseau en disant « je résume une démocratique parce que c'est... » Et donc c'est pour ça que j'ai fait le chapitre sur Rousseau. Ce n'était pas du tout pour faire une sorte de genèse dans laquelle j'aurais rassemblé tout ce qui effectivement s'est noué, etc., dans les déclarations. Donc je concède cette absence, mais c'est la raison.
Bien, je crois qu'il nous reste surtout à vous remercier très chaleureusement de vous être prêté à toutes ces questions.
Non, mais c'était passionnant, c'était...
Merci beaucoup. Alors, juste un instant, je souhaite vous annoncer la prochaine conférence de la Société de philosophie qui aura lieu le 10 janvier. Et nous accueillerons Pierre-Henri Castel pour son dernier ouvrage, donc sur les âmes scrupuleuses. Voilà, donc le 10 janvier à 18h. Voilà, merci, à bientôt.
Merci.